Et aujourd'hui, la seconde partie de l'entretien avec Jan Zeidel, qui s'apprête à publier le résultat de ses recherches sur l'histoire des homosexuels en Tchécoslovaquie. C'est la première étude réalisée sur le sujet, et ce nouveau chapitre de l'histoire vous est présenté par David Allon.
Chapitre de l'histoire.
C'est sous le communisme, nous l'avions vu il y a 2 semaines, que paradoxalement, l'homosexualité fut dépénalisée. Pour Jan Zeidel, c'est la couleur politique dominante sous la Première République tchécoslovaque de 1918 à 1938 qui a empêché de franchir plus tôt ce pas. Rappelons que sous la Première République, l'article 129 du Code pénal punissait officiellement l'homosexualité de peine de prison, en fait rarement appliquée.
Les partis de gauche n'étaient pas tellement influents qu'après la guerre. Et lorsqu'on regarde les processus de libéralisation des conditions légales relatives à l'homosexualité n'importe où en Europe, c'était surtout des partis de gauche qui étaient favorables à cette libéralisation. Donc, sous la Première République tchécoslovaque, c'était seulement le parti social-démocrate qui admettait qu'un jour, ça pourrait être un sujet de discussion, mais que, vu les conditions données à l'époque, ce n'était pas encore un sujet à discuter. De même façon, sous la Première République, il y avait un mouvement pour la dépénalisation de l'avortement qui était beaucoup plus fort que ce mouvement homosexuel. Il y avait beaucoup plus de défenseurs de dépénalisation d'avortement. Et ce mouvement-là a échoué également. La dépénalisation de l'avortement n'est survenue qu'en 1957. Mm-hmm. Donc également sous le régime communiste.
Mais si c'est bien le régime communiste qui dépénalisa le premier l'homosexualité, il ne faut pas oublier qu'une discrimination existait toujours dans la loi.
Vous savez, la décriminalisation de 1961 a quand même conservé une différence de traitement par rapport aux hétérosexuels, parce que la limite à partir duquel l'activité sexuelle était permise pour les hétérosexuels, c'était 15 ans, et pour les homosexuels, c'était 18 ans. Vers la fin des années 80, la nivellisation de cet âge limite était la principale revendication de ce mouvement homosexuel naissant.
Pour le chercheur en histoire, le sujet des homosexuels comporte des difficultés bien spécifiques, des obstacles inhérents à ces zones d'ombre. Car nous sommes d'abord dans la sphère des représentations. Ainsi, connaître le nombre d'homosexuels sous la Première République, par exemple, s'avère presque impossible. De même, l'opinion publique est particulièrement ardue à cerner.
Sur l'information que j'ai pu trouver sur les opinions des habitants, sur l'opinion publique, ce sont les informations que les homosexuels eux-mêmes ont repris dans leur revue. Et donc déjà, ces informations sont un peu filtrées par le fait que c'était les éditeurs homosexuels de la revue qui les avaient choisis pour les intégrer dans la revue. Et donc, bien sûr, il y a des témoignages, des attitudes très favorables, très, très libérales. Vous savez, ce qui est assez clair de ces sources, c'est que la question de l'homosexualité n'était décidément pas tellement présente dans l'espace public qu'elle l'est aujourd'hui. Et aussi, ce petit mouvement homosexuel des années 30 n'avait pas tellement de moyens de faire résonner leurs revendications dans l'espace public. Ils n'avaient que leur revue qui était éditée dans un volume de 300 ou 400 exemplaires. Donc, une très grande partie du public ignorait le fait qu'il y a une association qui réclame de telles revendications. En fait, vous savez, beaucoup ne se déclaraient pas. Et je pense que beaucoup de personnes qui, aujourd'hui, se déclarent comme gays ou lesbiennes, parce qu'aujourd'hui, chacun a des sources d'informations où, s'il y a des doutes sur sa sexualité, il peut les consulter. Mais à l'époque, je pense que beaucoup de personnes qui en fait étaient des sentiments émotionnels vis-à-vis du même sexe. Ne se rendaient même pas compte que quelque chose comme homosexualité pouvait s'appliquer à eux.
C'est en fait du côté de la police que Jan Seidel a pu reconstituer une image plus complète de la situation des homosexuels sous la Première République tchécoslovaque.
Il y a un autre type de source historique qui peut nous dévoiler le quotidien ou bien la vie antérieure de ces gens-là. Ce sont des comptes rendus, des interrogatoires à la police. Au cas où quelqu'un était arrêté par la police et interrogé sur ses rapports sexuels. Donc la police lui demandait d'écrire sa biographie jusqu'à ce point d'arrestation. Et la police les forçait de décrire non pas seulement les actes sexuels qu'ils avaient eus, mais aussi leurs sentiments. Puis quand est-ce que vous sentez que vous êtes homosexuel? Quand ce sentiment-là vous est arrivé pour la première fois. Et donc, ces réponses aux questions posées par la police, gardées dans les archives, enregistrées et conservées aujourd'hui dans les archives, c'est une source assez précieuse pour l'étude justement du quotidien et des façons de former son identité.
Les secousses des années 1960, décennies de libéralisation, et des années 1970, ou du moins de l'année 1977, ont-elles également touché les homosexuels en tant que tels? Existait-il une forme d'opposition, tout du moins de provocation, face au puritanisme officiel?
Pas de façon organisée. Au niveau individuel, je crois qu'il y avait des personnes qui osaient s'afficher. Mais c'était des personnes qui bien sûr n'avaient pas un statut social trop élevé, qui n'avaient pas trop de pertes, qui ont insisté sur cette liberté de vivre comme ils voulaient, mais ils étaient obligés de sacrifier pour ça leur statut social. Ensuite, c'était seulement vers la fin du régime communiste que les homosexuels eux-mêmes ont commencé à s'organiser. C'était à partir de l'année 1988, puisque à l'époque, c'était la perestroïka qui a déjà été transplantée de l'Union soviétique en Tchécoslovaquie, et où le régime déclarait qu'on allait démocratiser un peu la société. Donc les homosexuels ont cueilli cette occasion pour s'organiser un peu plus. À l'époque, le sujet du sida commençait à être urgent même en Tchécoslovaquie.
Aujourd'hui, la question de l'homosexualité s'est presque banalisée en France ou aux États-Unis, malgré des courants conservateurs plus ou moins importants selon les pays. 20 ans après la chute du communisme, la République tchèque semble s'être mise au diapason.
Je ne crois pas que ce soit un sujet tabou. Au contraire, je crois que le sujet de l'homosexualité, la vie des gays, des lesbiennes, les problèmes qu'ils rencontrent font maintenant partie intégrale du débat public. Il n'y a pas de force qui essaie d'empêcher les gays et les lesbiennes d'avoir accès à l'espace public pour présenter leurs exigences, bien qu'il reste quelques éléments que la communauté gay et lesbienne voudrait toujours voir améliorer. Donc le cadre légal aujourd'hui, en général, ne pose pas de problème sérieux lorsque deux gays ou deux lesbiennes veulent vivre ensemble et veulent, disons, officialiser leur relation.
Apparaître bientôt un ouvrage reprenant les recherches de Jan Seidel et d'un collectif d'historiens constitue une grande première dans ce domaine.
Ça va être un ensemble le plus étendu jusqu'à présent, comportant les résultats des recherches sur l'homosexualité du point de vue des sciences sociales. Parce qu'il y a déjà une monographie qui est aussi assez volumineuse, qui date de 2000. Et cette monographie s'appelle Gay History. Elle a une ambition de courir l'histoire de l'homosexualité depuis l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, dans le monde entier. Oui, c'est très général. Les pays tchèques y ont une place assez limitée. Et surtout, c'est un livre de vulgarisation de ce sujet. C'est pas un ouvrage académique.
Le livre de collectif de Jan Seidel est quant à lui fraîchement émoulu du cadre universitaire et constitue un apport sans précédent. Il sera publié en tchèque, avec quelques résumés en anglais toutefois.